plus.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, contre le colémie et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est Dodoué, Pont Dodoué, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout. Attends, paniquez pas,
niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Vous êtes bien sur Radio Canu. Eh ben, c'est la rentrée du Canu Info du vendredi.
Eh ben oui, du coup, on est contente et content de revenir. Alors, on va pas vous faire toutes les nouvelles de l'été, parce que sinon, ça prendrait 6 heures et on n'a pas eu le temps de préparer. Mais en tout cas, eh ben, ce soir, on va commencer par vous parler du local et on va vous parler de la grève à l'Apple Store de Lapardieu.
On va faire un petit tour d'horizon aussi sur les luttes et l'occupation du gymnase Bellecombe.
Et puis on ira du côté du national et on va commencer par Calais où la mairie empêche les réfugiés de boire.
Vous en avez sûrement entendu parler pendant l'été, la dissolution des soulèvements de la terre a été suspendue par le Conseil d'État.
Et je ne vous apprends rien, mais donc c'est la canicule actuellement et on va un peu parler de à quel point le gouvernement brasse de l'air et que ben, des personnes en meurent.
Et oui, parce que le gouvernement lui a pris peu de vacances et on va vous parler aussi d'une personne expulsée de son logement pour avoir participé aux émeutes de début juillet.
Peut-être on va faire l'international avant les animaux, on vous parlera de l'Italie et de la traque des familles homoparentales.
Et après on va parler des animaux, on va juste faire un petit point sur un refuge en Saône-et-Loire.
Et puis on fera l'agenda et puis le ACAB.
Alors si jamais vous êtes revenu de vacances ou même si vous êtes en vacances et hyper inspiré avec vachement de temps et votre petite bière pour appeler, et ben, vous pouvez bien nous passer un petit coup de fil au 04 78 39 18 15.
Bonne écoute.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les jugez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes.
en chantant résiste.
Alors, c'est peut-être pas la plus grosse grève de ces dernières années, mais finalement, après 2 mois de pause et quand même un mouvement social bien fourni, on a vu une toute petite grève, voilà, qui pointait de son bout de son nez au centre commercial de la Part-Dieu. Alors, ça va pas prendre longtemps, mais on avait quand même un peu envie de vous en parler. Et oui, c'est une petite grève lancée en plein mois d'août, une grève des samedis, qui a été lancée à l'Apple Store de Lyon-Part-Dieu. Alors, celle-ci pourrait quand même s'étendre à d'autres magasins de France et coïncider avec la sortie du nouvel iPhone, parce que vous le saviez pas, mais il va encore avoir un nouvel iPhone. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette grève des samedis? C'est quand même plutôt malin de faire grève le samedi, par ailleurs. Alors, les salariés dénoncent des plannings trop rigides, un manque de recrutement et des salaires inégaux entre les employés. Grosso merdo, comme d'habitude, quand on fait la grève, c'est parce qu'on est mal payé et pas considéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est en pleine période des négociations annuelles obligatoires. Et du coup, les salariés ont décidé de débrayer à l'initiative de la CFDT qu'on n'arrête plus hein, depuis ce printemps, la CFDT Pomme-R, pour dénoncer un management déshumanisant et une mauvaise qualité de vie au travail dans la filiale Apple Retail en charge des magasins physiques. Donc ça fait 2 samedis de suite que 50% des agents se mettent en grève. Le 5 août, c'était le premier jour de débrayage, le magasin a même dû fermer de manière anticipée faute de personnel suffisant. Et du coup, samedi dernier, rebelote, on ne sait pas encore ce qui va se passer demain, mais les paris sont ouverts. Les salariés donc, n'ont pas répondu présent pour la plupart, ils exigent le rétablissement de l'ancien système de planning qui leur permettait d'aménager un peu mieux leur temps de travail. Ils et elles demandent aussi l'indexation de leur salaire sur l'inflation et l'embauche de davantage de personnel pour alléger leur charge de travail quotidienne. La grève qui secoue l'Apple Store de Part-Dieu est en gestation depuis l'après-confinement. Alors que les plannings de travail étaient jusque-là conçus par des planificateurs en magasin, au plus proche des réalités personnelles de chaque salarié, la société a décidé de créer un pôle centralisé qui réunit tous les planificateurs de France. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les plannings, on ne peut plus les négocier avec son chef, ils sont négociés au niveau national, on ne peut plus dire « Ah tiens, bah, je dois aller chercher mon enfant ce soir-là, ah tiens, j'ai mon activité extrascolaire ». En gros, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau national depuis qu'il y a eu cette centralisation des plannings? Il y a eu la désertion des travailleurs et des travailleuses, qui est une autre manière hein, de mettre des petites billes dans le rouage. On est passé de 7% en 2018 à environ 20% à l'heure actuelle d'absentéisme des travailleurs et des travailleuses dans les Apple Store, ce qui veut quand même dire quelque chose. Alors, il faut savoir qu'à Lyon, il n'y avait pas trop ce taux-là. À l'Apple Store de la Part-Dieu, le taux d'absentéisme était inférieur à 10%. Ça, c'était tant que les plannings étaient gérés de manière interne. Et c'est depuis un mois que ce système a été supprimé et qui fait depuis l'objet d'âpres négociations. Faut savoir que du coup, les négociations elles sont aussi sur les salaires, donc ils veulent une augmentation qui suit l'inflation, donc au moins de 5%. Voilà, il faut savoir aussi que lancée en plein mois d'août, cette grève revêt un caractère inédit dans une firme où les employés restent fidèles à la culture d'entreprise. Vous savez, il y a tout ce truc de management d'Apple. Et c'est rigolo ce qu'on a lu par exemple sur le journal Rue 89 Lyon, c'est que les salariés ils voulaient quand même pas trop répondre aux questions. Ils étaient là, non mais il faut quand même prendre soin de l'image de la marque. Et puis voilà, on fait grève le samedi, mais il faut pas pénaliser le client. Enfin, il reste quand même vraiment très fort cette culture de comme si on était fidèle à la marque. Et du coup, que c'est pas rien en fait qu'il y ait grève dans les Apple Store, à l'endroit où cette culture là du néo-management, elle est quand même poussée très 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 loin. Et du coup, quand même, ça amène des salariés à dire « on a volontairement choisi de ne pas faire grève en sortie de produit pour le moment, parce qu'on sait qu'Apple tient à son image, le but n'est pas de pénaliser les clients ». Mais quand même, ils font grève, tout en disant ça, il faut savoir que les grévistes lyonnais s'accordent pourtant à dire que le moment est historique. Ils n'avaient débrayé qu'une fois en décembre 2018, suite au non-versement de la prime Macron. Ils sont maintenant suivis de manière spontanée et non coordonnée par d'autres magasins de France, celui de Confluence à Lyon, celui de Dijon, ont déjà rejoint la marche, tandis que Bordeaux et Aix pourraient les suivre dans les prochains jours. Eh bien, écoutez, faites grève.
Puis continuez, même si le dernier iPhone sort, n'hésitez pas.
Pénaliser les clients, c'est pas grave.
Et plus grave et encore moins joyeux, on avait quand même envie de vous faire un bilan sur l'occupation du gymnase Bellecombe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on vous en parlait avant l'été. Le gymnase Bellecombe, dans le 6e arrondissement, est occupé depuis le 22 juin par des femmes et des familles qui étaient auparavant à la rue. L'occupation, elle permet de mettre à l'abri des personnes à la rue, mais aussi de visibiliser et de protester contre la politique de non-logement de l'État et de la métropole. Et ces personnes-là, du coup, il faut quand même imaginer que depuis le 22 juin, elles habitent toutes dans un gymnase qui n'est pas climatisé. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été ? Pendant l'été, au moins fin juillet, il y a eu une semaine de mobilisation qui visait à alerter. On va vous lire le communiqué qui est sorti à ce moment-là. Cela fait maintenant un mois que nous occupons le gymnase, un mois de chaleur, de maladie, de tristesse, de peur, mais aussi de lutte et de solidarité. Un mois pendant lequel les familles dormaient encore dans la rue et venaient demander un abri dans le gymnase, mais la mairie refuse toujours. En un mois, elle ne nous a accordé que des lits de camp, que nous avons reçus il y a quelques jours seulement. Il y a parmi nous des femmes, des hommes, des enfants, des personnes handicapées qui ne supportent plus de vivre comme ça, en collectif, sans intimité. Un mois de silence, sans réponse, un mois de flou. Que va-t-il se passer pour nous en août, à la rentrée ? Les élus concernés ne sont jamais revenus sur place malgré nos demandes. Rien de concret n'a été proposé. Les institutions se rejettent la responsabilité au lieu de s'en saisir conjointement. Elles disent qu'il faut attendre, que l'hébergement dépendra des différentes situations individuelles. Nous sommes tous et toutes dans la même situation. Nous sommes à la rue. Avec ou sans papier, nous avons toutes droit à un hébergement digne et adapté. Nous voulons un hébergement adapté pour tous et toutes, sans condition, jusqu'au logement, la mise à l'abri au gymnase de tous les membres du collectif, des aides financières pour la rentrée des enfants. Nous avons besoin de soutien. Et du coup, associé à ce communiqué, il y a eu une semaine de mobilisation, il y a eu un gala de soutien au gymnase le samedi 22 juillet. Le lundi 24 juillet, c'était un rendez-vous devant la métropole. Le mardi 25 juillet, c'était rendez-vous devant la DDETS. Le mercredi 26 juillet, c'était rendez-vous devant la mairie. Après cette semaine de mobilisation, qui n'a rien donné, il faut quand même le dire, un nouveau rassemblement a eu lieu le 21 août devant l'hôtel de ville de Lyon. À ce moment-là, des personnes qui sont militantes, hein, qui ne sont pas forcément les premières personnes concernées, ont pu rencontrer l'adjointe aux solidarités, Sandrine Runel, qu'on ne porte pas dans notre cœur, on vous en a déjà parlé. Sandrine Runel, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a annoncé que des propositions de relogement seraient faites dans les prochains jours. Mais on ignore combien de familles seront concernées, par quel type d'hébergement et pour combien de temps. Sandrine Runel, elle a insisté sur le fait que l'hébergement d'urgence dépendait de l'État et donc de la préfecture, sur laquelle la mairie essaye de mettre la pression. Cependant, il faut quand même rappeler que de son côté, la municipalité peut faire beaucoup de choses, comme mettre à disposition du patrimoine municipal ou prendre des arrêtés anti-expulsion. L'adjointe a dit qu'il réfléchissait à des réquisitions et laissait entendre que la préfecture allait distribuer des hébergements en fonction de la situation administrative des familles. Il faut savoir que c'est illégal. Donc voilà ce qu'on a sorti du rassemblement du 21 août. Depuis, on a pu lire dans le Progrès, par exemple, qu'une partie des familles sera relogée. Toutes les informations comme ça, je vous dis, on les sort un peu au compte-gouttes. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on est à la veille de la rentrée, on est le 25 août, qu'il n'y a toujours pas de solution pour toutes les familles, que le gymnase doit être évacué parce que l'occupation, elle était aussi tolérée parce que c'était les vacances scolaires. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là, la Sandrine Runel ? Elle nous dit qu'il faudra que le gymnase soit évacué dans la semaine prochaine. Mais quand même, elle dit, mais on comprend tout à fait que cela sera compliqué. On prend le temps qu'il faudra et on ne demandera pas leur expulsion. Alors ça, on peut dire, on ne la croit pas. De leur côté, les soutiens assurent d'une même voix. On ne bougera pas tant que toutes les familles ne seront pas relogées. Une nouvelle réunion avec les collectifs Solidarité entre femmes à la rue et Jamais sans toi, soutien des occupants du gymnase est prévu pour la fin du mois. Tout ça pour vous dire de faire attention parce que ça, ces réunions, elles vont avoir dans les prochains jours. La rentrée, c'est la semaine prochaine. On rappelle quand même qu'à Lyon, 149 enfants dorment à la rue, 328 dont 334 bébés sont sans hébergement dans la métropole. Et peut-être pour vous dire, pour le collectif, la position est claire, nous occuperons ce gymnase jusqu'à ce que tout le monde soit relogé.
Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Oui, alors au national, on n'a pas des méga bonnes nouvelles non plus, parce que là, on va parler de Calais et du fait que la mairie confisquait en fait une cuve de 1000 litres d'eau qui était à destination des personnes exilées. C'est une association, une organisation qui s'appelle Calais Food Collective qui avait mis cette cuve sur un parking assez, enfin peu fréquenté. Et en fait, il y a une vidéo qui tourne où on voit bien les employés municipaux avec la police et des agents de sécurité, etc., qui embarquent dans une fourgonnette le réservoir d'eau. Donc là, c'est un reporter qui a fait un petit reportage là-dessus. Donc il nous explique aussi que après, les bénévoles de l'association, ils ont finalement réussi à retrouver où est-ce qu'ils avaient mis cette cuve. Ils l'ont retrouvée dans un local. Dans un local où sont stockés des effets personnels confisqués lors des opérations d'expulsion.
C'est donc voilà. Effets personnels. Voilà,
ils confisquent des choses et ils les mettent dans un local. Et là, il y avait une cuve de 1000 litres d'eau. Donc voilà. Ils disent que l'association est soulagée parce que ça fait à peu près quand même 250 euros et c'était un investissement important. Et il y a le reporter a contacté la ville qui a refusé de répondre aux questions. Par contre, pendant une interview qui a été donnée le 19 août dernier au journal local Nord Littoral, l'adjoint au maire Philippe Mignonnet, oh, il porte très mal son nom, il a prétendu qu'installer une cuve près des camps de fortune était une occupation illégale du domaine public. Donc ça, l'hypocrisie a été soulevée par les bénévoles parce qu'en plus, ils nous ont dit que, en même temps, la mairie avait aussi déposé en mars dernier des centaines de rochers qui avaient une valeur de plus de 40 000 euros en face de ce même parking là où il y avait la cuve et donc qui occupait aussi l'espace public. Donc peut-être pas de manière illégale, mais en tout cas, c'était aussi une occupation publique. Et en plus, c'est des rochers quand même qui sont à viser anti-SDF, quoi, qui empêchent, comme ça, ils peuvent pas s'installer, tout simplement. On nous dit que ça fait vraiment une guerre des citernes qui a débuté depuis janvier, parce qu'il y avait aussi il y avait eu déjà un vol en janvier d'une citerne sur le campement aussi. Mais par contre, la mairie, là, elle avait un peu nié, en tout cas, elle avait dit que c'était pas elle. Enfin, ouais. On sait pas trop. Elle a reconnu par contre avoir posé des pierres. Les fameuses pierres anti-SDF, mais elle a un peu nié pour la cuve, donc voilà.
C'est quand même retrouvé dans son local, quoi.
Voilà. Voilà, peut-être que d'autres gens ont les clés, c'est pas bon. Et en juin, il y avait aussi des robinettes de certaines cuves qui avaient disparu. À chaque fois, l'intégralité du contenu des citernes est déversée au sol. Voilà, donc en fait, si on n'enlève pas les cuves, on les saccage et on fait en sorte qu'on puisse pas boire ce qu'il y a dedans, ce qui est vachement malin.
En période de sécheresse.
En période de sécheresse, voilà. La municipalité a aussi, elle a vraiment mis en place une politique zéro point de fixation avec les fameux rochers. Donc en pratique, ça signifie que la police, tous les deux jours, elle mène des opérations pour expulser les personnes exilées qui se sont installées en ville ou dans les campements de fortune en périphérie. Et à cela s'ajoute une stratégie d'invisibilisation qui se traduit notamment par le refus d'installer donc des points d'eau fixe en centre-ville. À Calais, il existe un service de distribution d'eau ainsi qu'un service de douche qui est proposé par l'association La Vie Active. Mais les acteurs associatifs sur le terrain soulignent quelques lacunes, notamment que les douches elles sont loin des lieux de vie des gens, que les horaires sont restreints et qu'en plus les opérations d'expulsion... qui sont menées en même temps que les distributions, on n'a pas très envie d'aller se doucher, quoi, quand il y a ce genre de choses. On n'ose pas se déplacer, quoi, et aller profiter de ça, au risque de perdre ses affaires qui se retrouvent dans le local, etc., quoi. Donc voilà, la mairie et les services de l'association dénoncent en fait donc ces politiques horribles. Et la préfecture avait aussi émis une série d'arrêtés qui interdisaient la remise de repas dans le cœur de la ville entre septembre 2020 et avril 2022. Ils ont été annulés par le tribunal administratif de Lille en raison d'une insuffisance de l'offre à destination des exilés par l'État. Ok. c'est pas juste pour que les gens mangent, mais c'est vraiment... Donc ben, la situation elle est vraiment dramatique, et puis l'OMS, là, ils estiment qu'il faut entre 50 et 100 litres d'eau par personne et par jour pour répondre à des besoins de base. Et à Calais, ben, selon un rapport de la coalition Eau et Solidarité Internationale, et ben, les centaines d'exilés sur place, eux, ne disposent que de à peine 4,5 litres par jour.
De quoi boire,
du
finalement,
coup,
et encore.
Quoi, et encore, ouais.
Ça dépend s'il fait chaud.
Putain.
Et ben, tant qu'on vous parle de l'eau, on peut vous parler des soulèvements de la terre. On va pas vous refaire l'historique, mais il y avait quand même des questions de méga bassines pour mettre de l'eau. Bref, et des bagarres sur place. Et du coup, suite à ça, on s'en rappelle, Darmanin et le gouvernement en général. Leur arme préf, c'est la dissolution. Voilà. Hop, ça ne nous plaît pas, on dissout. Voilà. Comme ça, c'est facile. Malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir faire ça avec l'Assemblée nationale, nous, d'ici, mais on aimerait bien. En tout cas, la dissolution des soulèvements de la Terre, du coup, a été prononcée, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était courant en juin, quelque chose comme ça. Et peut-être c'est la seule bonne nouvelle de l'été, finalement, c'est que le Conseil d'État a suspendu, alors ça ne veut pas dire que c'est annulé et que tout est gagné, loin s'en faut, mais en tout cas, il y a eu des recours en référé qui ont été déposés auprès du Conseil d'État. Donc en référé, c'est-à-dire pour que ce soit traité relativement vite, on connaît la bonne volonté, parfois, ça entrave la vitesse. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une demande de suspension en référé et que le Conseil d'État a validé. Du coup, le Conseil d'État, on le sait, hein, c'est pas non plus... c'est pas un conseil d'extrême gauchiste qui vient comme ça décider des trucs. Et du coup, en vrai, même si c'est pas une victoire complète, on peut quand même se dire pour Darmanin et Macron et tous les guignols autour que quand même, en fait, quand le Conseil d'État vient dire, en fait, vous êtes tellement nul que vous n'avez pas été capable de présenter des éléments suffisants pour faire la dissolution, et que le Conseil d'État, qui est quand même vraiment un truc de vieux con de droite, par ailleurs, vient dire, en fait, c'est stop, pour l'instant, la dissolution est suspendue, parce qu'en fait, vous n'avez présenté aucun élément. Et même si c'est hyper malheureux de devoir en arriver là, à la fois, on est quand même content de se dire, ah bah tiens, en tout cas, à un moment, il y a une petite limite, et à minima, ça fait passer Darmanin pour un guignol. Bon, ou le Conseil d'État pour les fachos qui trouvent que le Conseil d'État sont des guignols, peu importe. En tout cas, ça veut quand même dire qu'ils sont même pas foutus de présenter des dossiers et qu'ils font vraiment toujours encore plus n'importe quoi. Alors, entre autres, peut-être il faut pas tant s'en réjouir, mais en gros, ce que dit le Conseil d'État, c'est il dit « oui, mais les atteintes aux biens, etc. » Alors déjà, il rappelle la violence, a priori, c'est pas contre... On ne peut pas être violent contre un mur, ça n'existe pas. On est violent à l'encontre de personnes, mais contre des objets, c'est pas un concept viable. En droit, et on peut quand même aussi s'interroger si la violence contre un mur, ça existe vraiment. Mais en tout cas, il vient rappeler ça, et après, il vient rappeler que quand même, finalement, il y avait du monde, mais qui s'est attaqué à un trou dans la terre, ce qui, en termes d'atteinte de l'ordre public, est quand même particulièrement limité. Enfin, que la réponse... Alors évidemment, il ne parle pas, le Conseil d'État, de la réponse répressive et du nombre de grenades qui ont été tèches pendant 2 ou 3 heures là-bas, mais ça revient à dire la même chose. En fait, on parle de gens qui allaient voir un trou par terre, ce qui quand même est vraiment complètement débile d'aller venir s'opposer et de mettre des moyens répressifs et de demander la dissolution d'un... Alors justement, c'est l'autre terme. Est-ce que c'est un groupement? Est-ce que c'est une association? En fait, les soulèvements de la terre, il n'y a pas le statut aussi facile qu'on pourrait dire, comme quand on dissout de la GAL ou une association, on dit, oh, bah, ça y est, on dissout l'association, merci, c'est fini. Là, les soulèvements de la terre, c'est une espèce de groupement un peu nébuleux. Alors, bon, effectivement, on peut imaginer qu'il y a des personnes et on peut proposer des critiques par ailleurs de leur fonctionnement, mais en tout cas, il n'y a pas un statut légal comme ça qui permet de dissoudre le truc comme si c'était aussi simple que ça. On rappelle, il y a quand même ELV dedans qui sont pas non plus, les plus radicaux des radicaux. Et du coup, bah voilà, le Conseil d'État, il rappelle, bah en fait, il s'est pas passé grand-chose, finalement, au nom des soulèvements de la Terre. En termes d'atteinte à l'ordre public, c'était vraiment pas foufou. Alors ça, peut-être, on peut pas s'en satisfaire. On pourrait imaginer que nous, on préférerait en fait, qu'il y ait beaucoup de choses et que ça vienne vraiment poser un problème. Mais en tout cas, symboliquement, il y a quand même eu ce rappel qui a été fait. Et bon, on espère que ça incitera pas à mieux préparer les dossiers à l'avenir au guignol du gouvernement, mais à minima, c'est venu mettre un stop et venir dire, en fait, on peut pas dissoudre tout et n'importe quoi sous prétexte que ça nous plaît pas, puisqu'on a quand même vu cette dernière année ou ces 2 dernières années comment les procédures de dissolution, c'était un peu la magie, et dès que quelque chose plaît pas, on va essayer de le dissoudre. Bah, on peut pas dissoudre tout et n'importe quoi, et encore heureusement, espérons que ça continue plutôt dans ce sens-là.
Oui, et du coup, là, les soulèvements de la Terre, je crois, sont en train de finir une grande marche aussi de lutte pour l'eau qui, j'imagine, prend d'autant plus de sens en ce moment de canicule. On a hésité à vous parler de la canicule, mais allez, on va en mettre une couche, on va donner la voix à un article qui est pas révolutionnaire, mais qui redit, qu'on a trouvé sur Mediapart de Michael Correa, qui réaffirme quand même que si l'inaction, c'est une responsabilité et que derrière la canicule, il y a des responsabilités, il y a des personnes aussi, et qu'on ne fait pas que subir la nature et le climat. On peut commencer par la communication affligeante du gouvernement depuis le début de la canicule, qui cache mal 6 années de procrastination climatique, et ça, c'est une responsabilité. C'est une inaction mortifère quand on sait que 33 000 décès dans l'Hexagone ont été liés à la chaleur entre 2014 et 2022. Alors du coup, dans cet article qu'on a lu sur Mediapart, ça commençait un peu par une citation comme ça pour faire classe. Les canicules sont des tueuses silencieuses et invisibles, des personnes silencieuses et invisibles. Ça a été dit l'été dernier par le sociologue américain Eric Klinenberg, spécialiste de l'impact social des vagues de chaleur. Depuis que la canicule traverse la France, le gouvernement semble avoir élaboré sa communication à partir de cet aphorisme cinglant, en misant que les premiers et premières impactés seront les gens qui ne sont rien. Vous savez, Macron nous a déjà parlé des gens qui ne sont rien. Mercredi 23 août, 19 départements étaient en vigilance rouge et 37 autres en orange, soit environ 37 millions de Français et de Françaises sous un soleil de plomb. La vague de chaleur continue de s'intensifier et donc est qualifiée par Météo France d'exceptionnelle dans certaines localités. La veille, le pays avait même enregistré sa température moyenne la plus élevée après un 15 août depuis le début des relevés. À l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard dans l'été, indique l'organisme météorologique. Ça, je pense qu'on va vous le répéter hein, tous les étés maintenant. Ça devient de moins en moins exceptionnel, malheureusement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la France, elle suffoque, encore. Mais face à ce type d'événement climatique extrême, qui surviendra 2 fois plus souvent d'ici à 2050 selon le GIEC, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a asséné sans détour « On doit s'habituer à vivre avec ». Ça fait des petits échos, on se souvient de comment a été traitée la crise du Covid qui n'est pas finie non plus, mais on doit s'habituer à vivre avec. Ça, c'est moi qui rajoute par rapport au texte. Après, si on revient sur l'article de Michael Correa, qui nous dit « Cette déclaration gouvernementale omet cyniquement que les vagues de chaleur causent de nombreux décès. » Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. « Et que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face au brasier climatique. » Alors, bon, on ne va pas chercher les extrêmes gauchistes, on va du côté de Santé publique France, où, donc, d'après eux, comme je vous l'ai dit, quand même 33 000 personnes sont mortes entre 2014 et 2022. Et puis là, vraiment, je vous parle que des températures, ça paraît, je m'éloigne de l'article, mais du coup, ça ne dit pas, par exemple, les pics de pollution qui sont liés à la chaleur, les pics. Enfin, je veux dire, il y a vraiment d'autres décès qui sont liés, comme vous voyez, ces décès collatéraux. Du coup, en vrai, pour moi, c'est beaucoup plus que 33 000 personnes. Ça, c'est vendu chaleur comme décès principal, quoi. Mmh. Alors qu'on voit notamment à Lyon, par exemple, la dégradation de l'air, qui, pour le coup, provoque d'autres problèmes de santé. Donc, face aux coups de chaleur intense, les plus vulnérables sont en première ligne. Comme on a pu lire, par exemple, si vous lisez sur Mediapart, une enquête cartographique sur les inégalités climatiques, les quartiers populaires et particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville, territoires où la part de la population pauvre tourne autour de 40%, sont surexposés aux chaleurs extrêmes. Les personnes non blanches aussi, souvent assignées à vivre dans des espaces urbains minéralisés, souffrant le plus des températures caniculaires. Et on peut rajouter, ne partons pas en vacances. Mmh. La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de l'Hexagone et où les personnes immigrées représentent près d'un tiers de la population, était parmi les plus touchées lors de la vague de chaleur de 2003, avec une surmortalité de plus de 160%. Donc ça se prouve malheureusement par les chiffres. Nier la dimension sociale de la crise climatique est devenu le credo de la communication gouvernementale. Les femmes, enfin, sont davantage victimes des canicules, comme l'a révélé une récente étude parue en juillet dans Nature Medicine. Le nombre de décès liés à la chaleur en Europe était de 63% plus élevé chez les femmes que chez les hommes durant l'été 2022. Mais qu'importe, finalement, nier la dimension sociale de la crise climatique est devenu, depuis la montée du mercure, le credo, du coup, du gouvernement. Donc, par exemple, on peut regarder le ministre des Solidarités qui a un visuel officiel et qui conseille de mettre les personnes sans-abri à l'ombre si possible. Ah bah merci.
Comment on les met à l'ombre? On les prend, on les déplace?
Ah non, il y a vraiment marqué conseil de mettre les personnes sans-abri à l'ombre si possible. C'est vraiment ce qui est marqué sur son visuel officiel. Un avis à la population, un appel à la responsabilité individuelle qui teste que le pays, par exemple, dénombre plus de 3 millions de logements vacants. Vraiment, si on cherche...
Où il y a de l'ombre, a priori.
Où il y a de l'ombre, a priori. Quant au président Emmanuel Macron, alors que le Haut Conseil du Climat avertit depuis 2 ans que les 2/3 de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque climatique, il s'est contenté le 18 août de déclarer « Veillons les uns sur les autres ». Voilà, c'est ça. Non mais on sait pas, on est entre la colère et le... Ouais. Alors, un mois auparavant, il faut quand même rappeler qu'il est élevé au grade d'officier de la Légende d'honneur, Patrick Pouyanné, qui est Patrick Pouyanné, c'est le patron de Total Energy. Pascal, qui est-ce qu'on a envie de donner la...
Le gros pollueur de France.
La multinationale émet pourtant à elle seule autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français. Son PDG, encore assumé cet été, continuait de produire des énergies fossiles, alors que la combustion est à l'origine de près de 90% des émissions mondiales de CO2. Enfin, dans une France en surchauffe, hein, ça vous le savez, et alors que près des 3/4 des nappes phréatiques sont sous la normale, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ont préféré s'émouvoir pour quelques mottes de green arrachées dans un golf Poitevin. C'est vers Poitiers. Par des manifestantes estampillées soulèvement de la terre. Bah bien sûr, c'est ça le problème. Le problème, c'est s'attaquer à un golf. C'est pas les nappes phréatiques. Et en plus, ce qu'ils n'ont même pas dit, c'est des ministres hein, qui ont dit ça, ce qu'ils n'ont même pas dit, c'est que ce golfe se situe en zone d'alerte renforcée sécheresse. Donc en fait, le gouvernement, il fait plein d'alertes. Vous voyez, là, on était en alerte rouge, avant on était en alerte orange. Des alertes, ça dit quand même, en vrai, vous n'avez pas le droit de vous rassembler, vous n'avez pas le droit de faire plein de trucs. Par contre, ça ne dit pas, vous n'avez pas le droit d'arroser un golfe, visiblement. Ce brassage d'air médiatique vise à masquer la procrastination délibérée du gouvernement en matière d'action climatique. Et du coup, on rappelle, si on peut faire quelque chose contre la canicule, évidemment, on ne va pas l'arrêter là maintenant, mais il y a des actions à faire pour qu'elle soit moins pire les prochaines années. Et si ça, ça existe. Et on rappelle, ce n'est pas faire pipi sous la douche. Le ministre de l'écologie, c'est encore pas dans le texte, le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, s'évertue sans entrain à marteler son plan canicule, qui se résume à l'envoi de SMS en cas de chaleur, parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, ou à inciter à baisser les stores. Bref, le vide politique est tel que la fin de l'impression systématique des tickets de caisse depuis le 1er août a été vantée par ce dernier comme un geste pionnier en matière d'économie circulaire et de sobriété. Voilà, tout ça, ce n'est pas le Gorafi. Mercredi midi, en sortie de Conseil des ministres, Elisabeth Borne a appelé à accélérer sur l'isolation des bâtiments. Mais pareil, elle appelle comme ça.
C'est sans plus d'annonces. Le maire qui dit « Je vais me fâcher si vous n'êtes pas gentil, les entreprises ».
Voilà, donc là, il faut accélérer sur l'isolation des bâtiments, mais il n'y a pas d'annonce. Et il n'y a pas d'argent, visiblement. En somme, le seul vert des politiques gouvernementales déployées cet été se niche dans la couleur du numéro « Canicule Info Service ». Ouais, bon, voilà, je sais même plus trop quoi vous dire. Hein. Sarah El-Bahiri, qui est quand même la nouvelle secrétaire d'État chargée à la biodiversité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « la caniculture, c'est une évidence ». Et ben, du coup, Michael Correa lui répond l'inaction aussi, et on ne peut être que d'accord.
Eh ben, c'est la merde.
Ils ont pas chômé, hein, cet été.
Ils ont pas chômé, non. Punchline.
Béline Moreau.
Incroyable.
Et ben bah ouais, bon, on sait plus quoi faire, alors on rit parce qu'on peut-être des fois on y a des petits élans de peut-être, on va pas oser dire désespoir, mais quand même mais voilà, bah c'est la merde parce qu'il fait chaud, puis c'est la merde parce qu'il y a des fachos, et ça arrive.
Ah ouais.
C'était involontaire, mais c'est arrivé.
Nous aussi, on a des punchlines.
Alors, on vous rappelle le numéro vert de Radio Canu, 04 78 39 18 15 pour nous envoyer vos
punchlines.
Et vos punchlines préférées, on les diffusera aussi. Bon, cela dit, ouais, y a quand même des fachos. Alors, aux préfectures, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais là, on va vous parler aujourd'hui de la préfecture du Val-d'Oise qui a versé dans le, on n'est plus dans l'indécence, je ne sais pas où on est, mais dans quasiment l'horreur et à tout point de vue. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, alors Twitter, X, on va continuer de dire Twitter parce que c'est plus facile. Sur le compte Twitter de la Pref du Val d'Oise, il y a eu un très beau message aujourd'hui avec marqué « Expulsion de son logement social d'un émeutier, ayant participé aux violences urbaines de juin dernier ». Et avec, il y avait des petites images dont droit et devoir, vous voyez, la cam du truc, et surtout, et c'est là où quand même on voit le niveau d'inhumanité en fait de personnes qui osent poster des trucs pareils, avec les photos d'une expulsion commanditée par la Pref, hein, des photos d'expulsion pour montrer comment ça marche quand on lutte contre, ça n'a pas du tout le même sens que quand c'est la Pref qui monte des photos d'une expulsion. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme dit, c'est une personne qui pas eu de bol, s'est fait pécho lors des émeutes, avait pillé ou peut-être pas, puisque bon, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais en tout cas qui s'est fait pécho pendant les émeutes, qui est passé devant un tribunal, probablement en comparution immédiate, et évidemment on se rappelle, hein, se faire attraper par la police, quel que soit le contexte, pendant les nuits d'émeute, c'était tribunal et c'était quasiment tôle ferme, voire avec mandat de dépôt de façon quasi systématique. Ce qu'aurait pu horrifier la préfecture du Val-d'Oise, on peut quand même le dire, c'est tous ces flics qui sont mis en arrêt maladie parce que leur collègue avait buté quelqu'un et était en détention provisoire. Ça aurait pu choquer la préfecture de voir ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment que cette personne, s'est fait attraper, s'est fait condamner. Et alors moi, je trouvais, on m'avait parlé quand j'étais petit à l'école de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a la justice d'un côté, l'exécutif de l'autre, et du coup, finalement, la préfecture n'avait pas grand-chose à faire de ça. Une fois que la personne a été attrapée, ça appartient à la justice. Là, la préfecture du Val d'Oise, elle a trouvé ça vraiment scandaleux et du coup a ordonné l'expulsion, donc évidemment, de la dite personne, mais aussi de toute sa famille d'un logement social qui elle occupait depuis quelques années. Expulsion qui du coup a pu avoir lieu puisqu'ils ont retrouvé une ancienne procédure et qui du coup permettait de le faire hyper vite, donc en deux temps trois mouvements, merci, au revoir, et ils ont mis les personnes dehors, on peut le rappeler, en pleine canicule, mettez-vous SDF à l'ombre, n'est-ce pas, cher gouvernement. Dans tout ça quand même, c'est juste ouf, alors déjà l'idée d'expulser des gens parce qu'ils ont éventuellement pillé un magasin. On va quand même le rappeler, le logement c'est un droit pour toutes et tous, parce que si on commence à expulser, à foutre les gens dehors quand ils font une bêtise, je veux dire, Sarkozy il va faire quoi? Il va passer 30 ans de sans-abrisme obligatoire, c'est la seule solution. Enfin, bon, si on compte comme ça en jour de sans-abrisme, éventuellement on peut commencer à discuter, mais en fait c'est pas comme ça que ça marche. Le logement, c'est pas une récompense, c'est pas un cadeau, c'est juste un droit, c'est un droit qui doit rester inaliénable, et quelles que soient les conneries qu'ont pu faire les gens, il n'y a pas de négociation à cet endroit-là. Et en fait, la dignité, c'est jamais... enlever la dignité des personnes, c'est jamais une sanction qu'on pourra trouver acceptable. Du coup, on peut quand même parler de ça. On peut parler des bailleurs sociaux qui, en fait, se mettent en contact avec les préfs et peuvent demander à leur initiative que la préfecture leur communique en fait les condamnations des locataires, mais de quel droit, enfin, la personne qui vous loue un logement peut avoir accès à votre dossier à la préf et au niveau de la justice? Enfin, c'est juste complètement pété. Une fois encore, c'est deux domaines qui n'ont pas à se croiser, on peut faire ce qu'on veut, à un moment on peut avoir un logement. Alors comment c'est possible ça? En fait, c'est avec des bails hyper dégueux. Il y a des trucs qui permettent d'expulser les gens si, en gros, ils n'ont pas une utilisation, vous voyez pas mes doigts, entre guillemets, normale du logement. Et du coup, en fait, dans ces trucs-là, c'est évidemment des trucs anti-pauvres et qui se passent beaucoup dans les quartiers populaires. Ça veut dire que si vous dealez, par exemple, en bas de votre immeuble, on peut vous dire, ah, mais vous avez une utilisation anormale de l'espace, gna 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 gna, du coup, on peut vous tège. Ou si vous vous y occupez de façon, j'ai oublié le terme, je crois que c'est pas illégal, c'est inhabituel ou malvenu, un truc un peu flou comme ça, les espaces communs. Donc en gros, par exemple, t'habites au 18e étage d'une tour de merde où tu pètes de chaud pendant tout l'été. Admettons, tu vas aller zoner dans ton hall en bas, en fait, parce que c'est au rez-de-chaussée et peut-être il fait 5 degrés de moins. On peut dire que c'est pas une utilisation bien normale des espaces communs et du coup de mettre à la rue. Voilà, du coup, c'est encore... ce qui est terrifiant, c'est que c'est encore une énième conséquence des émeutes et surtout de la répression qui a été mise après. Et moi, je trouve, quand on voyait déjà les dizaines de milliers de decks qui étaient envoyés de partout pour tabasser et tuer des gens, ça faisait déjà flipper. Quand on a vu toutes les comparutions immédiates, ça fait encore plus flipper que c'était quand même quasiment personne est sorti sans se prendre de la tôle et le nombre de mandats de dépôt, parce que bon, 3 mois de tôle, c'est quand même pas pareil que 3 mois de tôle avec un mandat de dépôt, parce qu'il y en a un où on va vraiment en tôle et pas l'autre, c'est quand même vraiment pas pareil. Et là, se dire que maintenant, ils commencent à expulser les gens de leur logement, les gens eux-mêmes et toute leur famille qui n'ont rien à voir avec la choucroute, ça veut dire que, bah voilà, toute la famille, le père, la mère et les frangins, frangines qui se sont retrouvés eux aussi expulsés de leur logement, a priori, il me semblait aussi qu'on punissait les personnes pour ce qu'elles ont fait, pas pour ce que machinette ou machin qui connaîtrait, qui serait de la famille, en fait. Et en fait, ça, c'est les conséquences qui viennent, une fois encore, évidemment, s'exercer sur les personnes qu'ils arrivent à pécho, mais aussi instaurer un climat de terreur et un truc comme s'ils essayaient de générer une espèce de milices internes en fait au banlieue, parce que finalement on a tellement peur de se faire virer soi si quelqu'un d'autre a fait. Et évidemment ça va aider les gens, en tout cas ça va inciter aussi à Poucave beaucoup et à venir aller balancer son voisin, comme ça avait été dit pendant l'été, avec exactement, je trouve, dans les mêmes dynamiques, où le centre social, un maire a dit mon centre social sera jamais rouvert en fait tant que les gens de ma commune n'auront pas balancé qui a cramé l'école ou je ne sais quoi. Et ben là, ça va générer exactement ces mêmes dynamiques. On va attaquer des gens qui n'ont rien fait en les incitant du coup à venir faire la police, le sale boulot de la police eux-mêmes. Voilà, je suis vénère et c'est vraiment inimaginable d'arriver à des niveaux d'indécence pareil.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et bien maintenant, on va pouvoir s'énerver sur un autre sujet. on arrive en Italie où Barganova en mai, on ne peut pas vous parler de tout. Et du coup, on va vous parler de la traque des familles homoparentales, comme vous le savez, Giorgia Meloni dirige l'Italie depuis plusieurs mois. Et du coup, en Italie, de fait, les droits des personnes LGBTI+ ont toujours été limités. Il n'existe aucune loi contre les discriminations homophobes. Et si les unions civiles sont ouvertes aux couples du même sexe depuis 2016, ils n'ont pas accès au mariage, ni à l'adoption ou à la PMA. La filiation des couples gays et lesbiens n'est pas non plus reconnue. Mais par contre, elle profitait d'un flou juridique sur la transcription des actes de naissance. Et des rares municipalités avaient toutefois décidé ces dernières années d'enregistrer les deux parents d'enfants conçus via une PMA ou une gestation pour autrui à l'étranger. Donc voilà, il n'y avait pas de loi, mais du flou. Et ça avait permis de protéger les droits des familles homoparentales, qui étaient du coup déjà très peu protégés en Italie, ce que l'État a jusqu'ici refusé de faire à travers une loi. Donc ça se faisait depuis plusieurs années. Donc globalement, un enfant pouvait avoir deux mamans ou deux papas, pour être très clair, légalement. Mais le gouvernement dirigé par la première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, a néanmoins décidé de mettre fin à cette pratique. En avril, le ministre de l'Intérieur a diffusé une circulaire demandant au maire de n'inscrire que le nom du parent biologique sur les actes de naissance. Celui de Padoue a tenté de contourner l'interdiction, mais il s'est heurté à un rappel à l'ordre du préfet. Les parquets de certaines régions ont ainsi entrepris d'enquêter sur les actes de naissance déjà établis ces dernières années. Par exemple, à Bergame, cela a conduit un juge à retirer le nom de la mère non biologique de l'acte de naissance d'un bébé de 9 mois. Donc, vous savez que c'est une loi qui devient rétroactive. Genre, vous étiez légalement parent d'un enfant, vous ne l'êtes plus. À Milan, une décision similaire a été rendue pour un enfant né d'une GPA à l'étranger. La justice milanaise a en revanche jugé irrecevable la demande du parquet concernant 3 couples lesbiens. J'espère que nous gagnerons ainsi lors des audiences à Padoue, déclare l'avocat Michel Giarratano, qui représente des dizaines de familles convoquées à l'automne, sans quoi nous porterons l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Quand même, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que maintenant, on n'a plus le droit d'inscrire deux parents et qu'ils reviennent dans beaucoup de municipalités italiennes pour retirer le droit des personnes. Les personnes, elles sont en PLS. Hein. Quand vous lisez des témoignages de personnes, genre si une personne décède, l'autre personne n'a plus aucun droit sur l'enfant, elle ne peut même plus aller le chercher à l'école. Enfin, ça fait des situations juridiques qui sont invraisemblables. Donc ça, c'est passé pendant l'été. Comme on vous a pas fait de Canu Info cet été, pour vous dire quand même que mercredi 2 août, il y a eu un rassemblement à Lyon devant le consulat à l'initiative de la collective Les Lesbiennes contre le patriarcat pour dénoncer cette situation. Qu'il y a eu beaucoup de prises de parole. Je vais vous en lire très rapidement des extraits de plusieurs collectifs. Et aussi pour vous dire que moi-même ayant cherché après sur internet, il y a eu beaucoup du coup d'informations fin juillet, début août, quand cet rétropédage de loi est passé, il n'y en a plus depuis. Et que je trouve que c'est toujours important de continuer à suivre ça, et du coup peut-être qu'on aura plus de nouvelles à la rentrée. Mais par exemple, entre autres, les lesbiennes contre le patriarcat, elles ont dit le 2 août, la loi votée par le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni prévoit de défaire nos familles. La mère qui n'a pas porté son enfant sera supprimée du livret de famille et perdra tous ses droits sur ses enfants. Cette situation est catastrophique en cas de décès de la mère qui a porté l'enfant. Cet enfant deviendra pupille de la nation et sera placé en foyer ou en famille d'accueil. Mais c'est aussi empêcher ces mères d'aller chercher leur enfant à l'école, de pouvoir l'accompagner en cas d'hospitalisation et de pouvoir obtenir une garde en cas de séparation des mères. Partout dans le monde, la banalisation et la montée de l'extrême droite mettent en danger nos familles. En Russie, la nouvelle loi anti-trans de Poutine s'attaque directement aux familles des personnes trans. En plus de l'interdiction des transitions médicales et légales, elle annule leur mariage et leur interdit la garde ou l'adoption d'enfants. En Hongrie, la loi contre la promotion de l'homosexualité vise spécifiquement les enfants et les contenus qui leur sont adressés. Aux États-Unis, les reculs historiques du droit à l'avortement s'accompagnent là aussi de réduction des droits des personnes LGBT dans de nombreux États. À chaque fois, les droits de l'enfant sont érigés en étendard pour justifier la destruction des familles LGBTI+. En France, nos droits sont toujours insuffisants et fragiles. La loi bioéthique qui a ouvert l'accès à la PMA aux femmes cis lesbiennes et qui est déjà très insuffisante par rapport à nos revendications est révisée tous les 7 ans. En 2028, nous pourrions subir un énorme retour en arrière. La proposition de loi du RN visant à empêcher les personnes trans de participer à des compétitions sportives montre que cette offensive réactionnaire est en marche dans notre pays. Voilà, du coup ça c'était un extrait, on pourrait vous en lire bien d'autres. Si vous voulez lire toutes les prises de parole, elles sont accessibles sur le site Rebellion, si vous voulez voir suite à ce rassemblement. Pour dire que là aussi, voilà, le fascisme, il est grimpant partout, il est grimpant en France, bien sûr, à travers la Macronie, il faut pas se voler la face, il est grimpant partout en Europe, et il attaque les personnes migrantes, les personnes racisées, et les personnes LGBTI, les personnes précaires en premier lieu.
Je vais revoir un rouminet.
Oui, et ben, on va aller en Saône-et-Loire où finalement, là-bas, il y a une maison de retraite qui a ouvert pour les animaux. Peut-être c'est la seule bonne nouvelle qu'on peut dire. Elle a ouvert en juillet 2023. Et c'est un concept qui est développé par une association qui s'appelle Animaux Secours. Je dis ça, mais je sais pas du tout. J'ai juste lu ça avant le Gagnon-Fo, du coup, je peux pas vraiment dire plus. Mais voilà, c'est pour. En fait, ils ont récupéré une ancienne laiterie qui faisait 8000 mètres carrés et pour recueillir des animaux en fin de vie. Donc voilà. Ça c'est une bonne nouvelle pour ces animaux-là, mais par contre, l'été c'est aussi le moment où les gens abandonnent le plus leurs petits animaux de compagnie, etc. Les associations, elles sont un peu sous l'eau en termes de travail en vrai à ces périodes de l'année. Donc voilà. Bon, que dire de plus, la canicule touche aussi vos petits compagnons, tout ça. Je sais pas quoi dire de plus.
Et les maisons de retraite ne veut pas dire que les animaux sont obligés de travailler. normalement c'est rigolo un peu la rubrique animaux, mais exceptionnellement on va faire un petit au revoir à Gribouille qui nous a quitté cet été et qui était un petit animal inspirant qui a jamais travaillé de sa vie, et ça c'était quand même pas rien, qui a su exploiter mon capital pour vivre et glandouiller, et qui quand même malgré ça a été quand même vraiment très très sympa avec tout le monde. Des fois il n'y a pas de maison de retraite, mais il y a quand même une retraite qui dure toute une vie, alors c'est bien aussi, et puis voilà.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé, mon second est oui en russe, et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est
l'agenda.
Alors, il faut quand même vous dire qu'on n'a pas encore un agenda très très fourni. Les gens sont encore en vacances ou morts de la canicule ou je sais pas, genre comme ça sur leur canapé. Mais quand même, des gens se bougent, merci à elle et eux. Depuis mercredi, il y a eu un appel à la semaine internationale de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières anarchistes. C'est une semaine qui dure du 23 au 30 août. Il y a un appel, du coup, à solidarité, il y a des actions à solidarité. Écrivez des lettres, organisez des discussions ou des projections de films. Faites en sorte que nos compas soient visibles dans la rue avec une banderole ou un tag. Et montrez-leur qu'ils sont dans nos cœurs et que nous combattons ensemble. Quand même, bon, c'est pas marqué dans l'appel encore, mais pour rappeler que les prisons n'ont jamais été aussi pleines en France, que aussi les prisonniers et les prisonnières ont extrêmement souffert de la canicule. Cette année, en tout cas, vous retrouverez cet appel sur le net si vous avez envie de vous mobiliser cette semaine spécifiquement pour les prisonniers et prisonnières anarchistes, mais j'ai envie de dire vraiment pour tous les prisonniers et pour toutes les prisonnières, et notamment, pourquoi pas dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles ils et elles sont obligés d'habiter actuellement. On vous a pas trouvé des festoches un peu partout, mais par exemple, si vous avez envie de partir et vous vous dites en vrai à Paris il fait toujours gris, allez, je vais à Montreuil, et ben pourquoi pas, vous pourrez participer au Digital. C'est un festoche qui a commencé hier mais qui dure jusqu'à dimanche, pas mal. Et comment est-ce qu'ils nous le vendent, ce festival? Ils disent, cet été, tandis que la sécheresse sévit partout, que le pays croule sous le soleil de plomb et les coups de matraque, on te donne rendez-vous à la Baudrière pour défendre et maintenir l'espoir. Ça fait envie. Les digitales reviennent et c'est bien un vent de fraîcheur qui va tout balayer pour cette troisième édition qui se tiendra du 24 au 27 août. Le convoi de l'eau, organisé par la Confédération paysanne et Bassine Non Merci, qui part de Sainte-Soline pour arriver le 26 août à Paris, sera de la partie. En gros, c'est un festival d'écologie vénéneuse, radicale et surtout anarchiste. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein de choses comme un festival, il y aura des discussions, des moments off, de la fête, des rencontres, ben voilà, vous pouvez bien y aller si vous avez envie. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Si vous vous dites non, la grande ville c'est fini, et ben vous pouvez aller à Bure, c'est une toute petite ville. Là, vous aurez des rencontres des luttes paysannes et rurales du 26 août au 3 septembre, ça veut dire la semaine prochaine, à partir de demain. Alors, qu'est-ce qui appelle ça? Ça, c'est d'y aller des rencontres. Parce que pourquoi à Bure? C'est là où l'industrie nucléaire française veut construire la poubelle nucléaire géante dénommée CIGEO. Ça, je vous redis parce qu'on est en doute, mais vous le savez normalement. Nous prévoyons un grand campement autogéré pour renforcer les liens et l'organisation entre un maximum de militants et de militantes des luttes agricoles et rurales d'ici ou d'ailleurs. Ça va parler de plein de choses, j'imagine, des plaines, des vallons, des côtes et des montagnes qui sont défigurées par l'agriculture et la silviculture chimique intensive, du tourisme, de la multiplication des grands projets inutiles, de l'artificialisation et de l'accaparement des terres. Finalement, tous et toutes, on est un peu concernés. Et donc voilà, bah à chaque fois je vous oblige à vous déplacer, mais vous pouvez quand même aller à Bure du coup ce week-end pour ces rencontres des luttes paysannes et rurales, ça a quand même l'air super. Moi je comprends qu'on a envie de rester à Lyon, et quand même on peut compter sur la permanence Infoshop de la lutine, et c'est pas rien. Je veux dire, quand le festival Tout le monde dort, la métropole nous abandonne la première quinzaine d'août, on peut quand même aller à la lutine. Et encore demain, de 14h à 19h, vous pourrez aller au 91 rue Montesquieu si vous avez envie d'aller sociabiliser autour d'une petite distro et d'un petit café. Et enfin, quand même, pour préparer la rentrée, réservez votre week-end prochain. Il y a une manifestation Justice pour les Kurdes le 3 septembre, au départ de Jean Masset, à tous les amis de la libération. De lutte de libération kurde et à toutes celles et ceux qui se battent pour une vie et un monde meilleur. Nous appelons à une manifestation nationale à Lyon ce 3 septembre à 13h place Jean Masset contre les attaques de la Turquie au Kurdistan, contre les attaques aux armes chimiques et stop à l'isolement et à la torture d'Abdullah Öcalan. La manifestation sera suivie de concerts et de prises de parole. Pas mal. Du coup, rendez-vous le 3 septembre.
Très bien vendu.
Et d'ici là, courage à vous et ben mettez-vous à l'ombre.
Oui. Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Pierre. J'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Alors, vous avez été moins nombreux de voix, mais c'est parce que c'est les vacances à nous appeler, mais quand même.
Eh ben oui, alors on a mal entendu l'appel, on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas de C en fait. Je crois qu'il y avait arrosons l'Apple Store et dont belle combe, mais on voit bien qu'il n'y a pas de C. Je sais pas, en tout cas, on peut dire.
Qu'on arrose aussi Calais.
Ouais, arrosons Calais pour aider.
Bellecombe.
C'est appelez-nous.
Et en tout cas, il est 19h56. On a l'impression que peut-être Noise Pollution est encore à vacances. En tout cas, on les voit pas, mais peut-être. Ben voilà, Noise Pollution, c'était bien.
Petite dédicace.
J'ai
entendu la porte.
Ah.
Ah non.
Peut-être qu'il y a Noise Pollution, peut-être qu'il n'y a pas. En tout cas, nous, les infos du vendredi, on était hyper contentes de vous retrouver. Et peut-être même, pour le prochain, on va chercher des bonnes nouvelles, finalement, oui. De temps en temps. C'est bien. si c'est pas Noise Pollution, vous savez bien, c'est les bums continues. Et ouais. Du coup, on vous dit bonne soirée et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.